Voilà, nous allons pouvoir commencer notre saison 3 ce soir en parlant un petit peu de entrez donc. Nous commençons à l'instant. Rappelez-vous, nous avions vu la dernière fois donc l'existence de Dieu et nous avions essayé de voir ce qu'il était. Hein. C'était le moment où on n'avait pas trop compris, vous vous souvenez, parce que nous avions dit que Dieu était celui dont l'essence est l'existence. Bon, je n'y reviens pas, mais comprenons que donc Dieu nous dépasse. Nous avions fini un petit peu en contemplant le grand mystère de la Trinité. Évidemment que on pourrait passer toute une année sur ce grand mystère. Ce n'est pas le but. Je vous redirige vers le catéchisme de l'Église catholique ou autre pour pouvoir approfondir donc ce grand mystère. Je reviens juste un tout petit peu sur la Trinité pour que vous compreniez bien ce que nous allons voir ce soir. Dans la Sainte Trinité, on dit que le Père engendre le Fils et que le Père et le Fils, voyez, spirent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et ces deux actions, si vous voulez, ou trois comme vous voulez, on les appelle des œuvres ad intra, c'est-à-dire des œuvres qui sont en Dieu. D'accord ? À la différence de ce que nous allons voir ce soir, des œuvres ad extra, c'est-à-dire les œuvres à l'extérieur de Dieu, en d'autres mots, la création. Hein. Donc vraiment, faisons bien la distinction entre les œuvres ad intra, celles qui sont dans l'essence même de Dieu, donc vous voyez, le Père qui engendre le Fils et le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, tout ça c'est depuis toute éternité et c'est au sein de Dieu, les œuvres ad intra, à l'intérieur. Et ce soir, nous allons donc voir ces œuvres ad extra, puisque nous continuons l'étude du credo. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il faut donc nous arrêter sur ce grand chapitre de la création. Alors attention, ce soir on reste en théologie, on ne va pas faire de la science. Je ne vais pas essayer de vous prouver l'existence du Big Bang. Non, ce n'est pas le but, puisque ce soir nous ouvrons la Bible ainsi que la tradition. Rappelez-vous, Dieu nous parle par la Bible et par la tradition. Et on va rester avec ces deux canaux, c'est-à-dire sous le regard de la foi. Mais n'ayons pas peur, la science vient soutenir la foi et aucunement elle ne s'oppose. Il y a un livre qui vient de sortir il y a un petit mois, je crois, sur justement la science, en gros, prouve l'existence de Dieu. Les sciences, plus on s'approche, plus on fait de science, plus ça rapproche de Dieu et la science moderne eh bien, se rend de plus en plus compte de ses limites et arrive à cette... soit on arrive dans l'absurdité, soit on arrive dans le mystère. Vous voyez, en gros, l'absurdité, c'est-à-dire que ce qui est part de rien, bon, ou alors le mystère, on parle de cause première, Dieu. Et c'est ce que ce fameux livre écrit par deux grands scientifiques essaye de montrer au monde et c'est plutôt une bonne nouvelle que Dieu soit un peu remis à la mode. Une petite précision de terme avant d'avancer. Quand on parle de la création, ça signifie deux choses. Le premier, c'est l'acte par lequel Dieu agit pour créer, d'accord ? Ce moment, cet instant, ce premier instant du temps où Dieu a créé, on appelle ça la création. Et ce mot désigne aussi tout ce qui existe autour de nous. Quand vous contemplez la création, justement, voilà, c'est ce même mot. Hein, toutes les créatures dont l'existence dépend totalement de Dieu. Hein, tout ce qui est, on va le revoir, dépend absolument de celui qui est l'être par essence, donc Dieu lui-même. Toutes les choses dépendent de Dieu dans leur origine, c'est-à-dire que découlent de Dieu, mais aussi dans la conservation des choses. On l'avait un peu dit aussi, Dieu maintient l'être dans l'existence. Sinon, tout ça disparaît, nous aussi, bien évidemment. Alors, voyons tout d'abord la première grande vérité, c'est qu'il faut dire que Dieu a créé le monde. Hein, c'est la première vérité de foi, il y en a quelques-unes ce soir. La première vérité, c'est que Dieu est le créateur de toute chose. Et le mot créateur, vous vous souvenez, les enfants, c'est ce qu'ils disent en premier quand on parle de Dieu. Dieu, c'est le créateur, c'est celui qui crée. Et ce verbe-là ne peut être utilisé au sens précis que pour Dieu. Parce que qu'est-ce que créer ? C'est faire quelque chose à partir de rien. On va y revenir aussi. Donc créateur, attention de toute chose, je vous l'ai dit, tout ce qui existe, tout sort de Dieu et que rien de ce qui est ne peut être sans Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'être subsistant par lui-même, c'est-à-dire la source jaillissante de tout l'être, un peu comme le soleil, si vous voulez, qui est la source de toute la lumière de nos journées. Aucune lumière ne vient d'ailleurs que du soleil. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'être. Tout ce qui est ne peut venir que de ce soleil qui est Dieu. D'ailleurs, Saint Jean, dans son prologue, vous savez, le prologue, c'est le premier chapitre de son évangile qu'on récite à la fin de la messe, en action de grâce. Il dit, il rajoute ce verset, le verset 3, hein, « Toutes choses ont été faites par lui », il parle du Verbe, donc de Dieu, « et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Hein, tout vient de lui, et rien ne sort si ce n'est de Dieu. » Il est donc le Créateur, c'est ce mot, il faut vraiment s'y arrêter, même dans notre méditation, et Créateur, de l'univers visible et invisible, disons-nous dans le credo de Nicée-Constantinople. Vous savez qu'il y a plusieurs credos, il y a plusieurs symboles de la foi. Le symbole que nous récitons dans le chapelet, il est constitué de 12 articles. La tradition raconte que les apôtres, avant de se séparer, auraient écrit chacun un article. Et ça a fait 12 articles pour pouvoir résumer en une petite prière la foi. Et puis ensuite, le concile de Nicée et plus tard le concile de Constantinople vont préciser quelques termes et ça va former un credo plus ample qu'on récite notamment à la messe. Et c'est dans ce credo que nous disons le créateur des choses visibles et invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, très simplement, les choses invisibles à nos sens, donc nous parlons des anges, et des âmes spirituelles, c'est-à-dire notre âme à nous. C'est ça les choses invisibles. Et puis le monde visible, c'est tout ce que nous pouvons connaître grâce à nos sens. Mais quand on réfléchit un petit peu, en fait, on ne connaît qu'une infime partie de la création. Vous savez, on dit que nous connaissons que 10% des fonds marins, par exemple. Et alors, je ne vous parle pas de l'univers, de la galaxie, vous voyez. On ne connaît sûrement encore moins et on ne connaîtra jamais la totalité de la création. Alors, pourquoi ça existe ? Attendons un petit peu. On répondra tout à l'heure. La deuxième vérité de foi, c'est que ce monde, donc, qui est créé, qui est, eh bien, a été tiré du néant. Et ça, je crois que c'est le plus grand mystère pour notre intelligence. Pour notre intelligence, c'est que il n'y avait rien, et de ce rien, Dieu a tiré les choses. On dit donc que le monde a été créé à partir de ex nihilo, d'accord ? À partir de rien, c'est le terme qu'on utilise régulièrement. Attention, Dieu ne s'est pas servi d'une matière préexistante, comme l'ont souvent pensé les Grecs, les païens grecs, pour qui il y avait une sorte de matière, une sorte de magma, si vous voulez, pour résumer, qui était éternelle, et Dieu ou les dieux se seraient servis de cette sorte de matière éternelle pour pouvoir modeler les choses et faire l'univers que nous connaissons. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit tout à l'heure, tout être dépend forcément de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse créer, il ne s'est pas servi de quelque chose qui est préexisté. Non, tout ce qui est découle donc de Dieu et il a tiré tout ça du néant. Et ça montre sa toute-puissance. Oui, c'est là où la toute-puissance de Dieu se manifeste réellement dans l'œuvre de la création, puisqu'il est parti à partir de rien. Hein, essayons de remonter un peu dans le temps, pour ce premier instant du temps, et juste avant, vous voyez la première seconde, eh bien juste avant, c'est difficile, eh bien il y avait Dieu. Trinité, la Trinité, et puis tout autour, si on peut dire comme ça, eh bien le néant absolu. Le néant, c'est rien, vous voyez, c'est sans fin. Et Dieu, par une explosion d'amour, si vous voulez, eh bien, va faire jaillir l'être. Et le temps va sortir de ce jaillissement de l'être. On va y revenir aussi. Mais voilà, rappelez-vous, cette deuxième vérité de foi, c'est que le monde a été tiré ex nihilo, à partir de rien. Et le bon Dieu ne s'est pas aidé de quelque chose qui préexistait. C'est peut-être pas une hérésie, mais en tout cas une erreur que faisaient les anciens philosophes. Ça rejoint un petit peu le mystère du mal, d'ailleurs. Entre parenthèses, je m'écarte un petit peu, mais vous savez que le mal, on dit que c'est une absence de bien, et donc c'est une absence d'être, le mal. Et donc c'est du néant. Eh bien, le bon Dieu, pourtant, avec ce néant, eh bien, il va en tirer du bien. Et à partir de ce néant-là, il va faire quelque chose de supérieur, il va faire de l'être. Pourquoi ? Parce que c'est le Créateur. Et donc, il fait ce qu'il veut avec l'être. Alors, c'est un autre sujet, plus complexe, mais ça rejoint un petit peu le mystère de la création. À partir de rien, Dieu fait les choses. Et donc, vous voyez, pour lui, pardonner, effacer des péchés, bah, disons que il n'y a rien de plus facile. Changer le pain en son corps, bon, ben voilà, pour lui, c'est normal, disons, parce qu'il est tout puissant. Il est le créateur, il est le maître de l'être, si vous voulez. C'est lui qui, il est le maître du jeu, le maître de la création. Troisième vérité de foi, on n'y pense pas forcément, Dieu est distinct, c'est-à-dire est différent de la création. Attention à cela, parce que beaucoup pourrait penser que les créatures, donc tout ce qui existe, est un morceau de Dieu, une sorte d'émanation de Dieu, une parcelle de la divinité. Et on tombe dans le panthéisme. Je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, qui est sorti il y a déjà quelques années. C'est typique, le panthéisme de la culture ambiante, où toute chose, vous voyez, est une partie de Dieu, et donc on est relié à la divinité par la création. Et ce côté un peu aussi... vous voyez, écologique, si on pousse très loin, eh bien, il faut protéger la planète parce que elle a une partie de... parce que c'est Dieu, en fait. Bon, j'exagère un petit peu, mais on tombe dans un panthéisme qui est faux, parce que il faut bien retenir que Dieu est en toute chose, en tant qu'il est le créateur, comme l'auteur est dans ses œuvres, on l'a dit, Dieu est en toute chose, mais attention, il n'est pas toute chose. Vous voyez la nuance, hein. Dieu est en toute chose, parce que les choses sont de l'être, mais Dieu n'est pas toute chose. Vous comprenez bien que cette chaise n'est pas une partie de la divinité, ce serait absurde de le penser. Il faut bien garder la transcendance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu transcende les choses, transcende la création. Il a produit quelque chose à l'extérieur de lui-même, ad extra, on y revient. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la nature divine et les choses qui ne sont qu'une participation de son être, mais pas du tout de sa nature, pas du tout de sa nature divine. Vous voyez la nuance. Alors, si on pousse un petit peu, la créature matérielle, vous prenez un arbre, par exemple, reçoit son être, son existence de la part de Dieu, mais ne reçoit pas sa nature divine. Ça, vous le comprenez. Elle reçoit son être. En revanche, quand on parle maintenant de l'homme, c'est un peu plus complexe. L'homme, il reçoit de Dieu son être et son existence, on appelle ça la vie naturelle. Il reçoit donc le fait d'exister, et ainsi que son être, sa nature humaine. Mais attention, Dieu va aller beaucoup plus loin pour l'homme, et pour l'ange d'ailleurs aussi. Il va lui communiquer, pour le coup, sa nature divine. On appelle ça la grâce. Hein ? Donc, vous voyez, en premier lieu, pour les choses matérielles, les choses naturelles, Dieu communique l'être, mais pas sa nature, il y a une grande distinction. Mais pour l'homme et l'ange et les bons anges, ils communiquent même sa nature divine. Et c'est pour ça que nous disons que la grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est cette participation à la nature de Dieu. Nous sommes divinisés. Sans tomber dans le panthéisme, on peut dire que nous sommes, j'allais dire, une partie de Dieu, attention. Mais, vous voyez, en chacun, eh bien, il faut voir Dieu. C'est d'où l'amour du prochain. Parce que, et d'où là aussi notre dignité d'être humain, parce que nous avons cette grâce, ce privilège d'être élevé au rang de Dieu. Hein? Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est tout le mystère de l'incarnation que nous allons bientôt célébrer. Voilà donc la distinction entre les êtres simplement matériels et les êtres spirituels comme les anges et les hommes qui, eux, ont ce privilège de participer à la vie de Dieu s'ils sont en état de grâce, bien évidemment. Quatrième vérité de foi, il y en a quelques-unes, je vous l'ai dit, c'est que Dieu a créé le monde, attention, par un acte de volonté. Le monde n'est pas arrivé comme ça par hasard, Dieu, a fait émerger de l'être. Non, c'est vraiment un acte de il l'a voulu, et ce qui montre deux choses, que Dieu est une volonté, et que Dieu est intelligence, parce qu'on a vu l'autre jour qu'il y avait de l'ordre. Et donc, quand vous dites que quelqu'un a une volonté et une intelligence, ben, vous pouvez dire que tout ça vient non pas d'une sorte d'énergie, mais bien, pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Dès qu'on parle d'intelligence et de volonté, on peut dire quelqu'un. Et la création montre qu'à la base, il y a eu une volonté, il y a eu une intelligence. Si on est juste dans le domaine de la raison. Hein. Après, la foi vient nous dire que Dieu, oui, est intelligence et volonté, et qu'il est même amour. Et que cet amour est la cause de la création. On va y revenir. Il a suffi à Dieu, vous voyez, de vouloir que les choses soient, et elles sont apparues. C'est dans le livre de la Genèse, hein, c'est le tout premier livre de la Bible, qui nous raconte la création. Chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, tout simplement. Parce que en Dieu, la volonté et l'être, eh bien, ne font qu'un. Rappelez-vous, Dieu est simple. Dieu est un. Il ne faut pas distinguer les choses en Dieu. Et donc, quand Dieu veut quelque chose, eh bien, en même temps, l'être arrive, si vous voulez. Comme on peut l'observer dans l'Évangile, les paroles de Jésus sont totalement efficaces. Lazare, lève-toi, et Lazare se lève. La tempête, calme-toi, la tempête se calme. La multiplication des pains, ceci est mon corps, ceci est vraiment le corps de Jésus, etc., etc. La parole de Dieu est une parole efficace, qui a une efficacité intrinsèque, liée à sa nature divine, évidemment. Donc, vous voyez, la création vient d'un acte de volonté toute-puissante. Dieu n'est limité en rien, on l'a vu aussi le mois dernier, et c'est pour ça que eh bien, sa volonté peut faire émerger du néant toute cette création magnifique que nous pouvons voir autour de nous. Alors, je vous posais une question. Est-ce que la création, l'œuvre de la création, vient seulement du Père, c'est-à-dire de la première personne de la Trinité, ou alors est-ce que la création vient de Dieu tout entier, c'est-à-dire des trois personnes? On dit dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Eh bien, attention, il faut distinguer toutes les œuvres ad extra, c'est-à-dire les œuvres extérieures à Dieu, toutes ces œuvres dépendent de la nature divine, donc de Dieu tout entier. Donc c'est Dieu tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Dieu tout entier qui a créé. La création vient de Dieu, de la nature divine. Mais on approprie, c'est un mot qu'il faut retenir, l'appropriation. On approprie certaines œuvres au Père, certaines autres au Fils, certaines autres au Saint-Esprit. Les œuvres de puissance, on les attribue au Père. Les œuvres de sagesse au Fils, vous voyez, la rédemption, l'œuvre de jugement à la fin du monde, on l'attribue au Fils. Et l'œuvre de sanctification, l'œuvre d'amour, on l'attribue au Saint-Esprit. Par exemple, l'incarnation, le fait que Notre-Dame ait conçu en elle le Verbe, c'est une œuvre d'amour, ça vient du Saint-Esprit, qui l'a recouvert de son ombre. Donc, vous voyez, on approprie certaines actions à certaines personnes, mais en soi, toute action ad extra vient de la nature divine. Ça va? Il faut bien retenir cela. Hein. Parce que la nature divine est unique, et donc, toutes les œuvres extérieures à Dieu viennent de cette nature unique. Voilà. C'est un détail, mais qui est important pour ne pas laisser le Fils et le Saint-Esprit au balcon en train de regarder la création. Non, c'est eux aussi qui ont été à l'œuvre. Et d'ailleurs, dans la Sainte Écriture, et notamment dans le prologue de Saint Jean, encore une fois, hein, « In principio erat verbum », le Verbe était au principe, et tout ce qui est vient du Verbe. Enfin, vous voyez, il y a tout un ensemble. « Et l'Esprit planait au-dessus des eaux », dit la Genèse. Voilà, Saint-Esprit est bien là. Dieu tout entier. Alors maintenant, regardons un petit peu les preuves de la création. Parce que, bon, on est peut-être trop habitué à ce phénomène. Bon, d'accord, il y a eu un début. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Vous savez, donc on l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup de philosophes païens, et peut-être encore aujourd'hui, les choses sont depuis toujours. La matière est éternelle, il n'y a pas eu de début. Sauf qu'on se rend bien compte que il faut forcément, quand on remonte l'échelle des causes, hein, il faut s'arrêter à quelque chose. Il faut s'arrêter à une cause première. Donc ça ne peut pas être éternel. Et quelques preuves donc, du dogme de la création, des preuves que ça a bien commencé un jour, et pour nous aider à croire en ce dogme, parce que c'est vraiment un dogme de foi. Si on ne croit pas en la création, on ne peut pas réciter le credo, donc on n'est pas catholique. Les preuves, nous les trouvons, on est dans le domaine de la foi, hein, je me répète, donc on les trouve dans la Sainte Écriture et dans la Révélation. Dans la Sainte Écriture, évidemment, on trouve ces preuves dans le livre de la Genèse, je vous l'ai dit. Ce livre, attention, un garçon en cinquième le jour m'a posé la question, mais qui a écrit ce livre de la Genèse? Qui a écrit la création? Parce qu'en soi, par définition, il n'y avait personne pour regarder, pour photographier, pour retenir ce phénomène. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, c'est très intéressant. Rappelez-vous, mettez-vous à la place d'Adam et Ève. Dieu, il y avait, avant le péché originel, il y avait cette science quasiment infuse dans l'intelligence d'Adam et Ève et cette relation filiale avec Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont pu apprendre, voyez, tout ce mystère de la création. Qu'ils ont ensuite transmis, malgré le péché originel, ils ont quand même transmis ces choses à leurs enfants, à l'oral, comme ça se faisait autrefois, pendant des générations et des générations. Et on pense, traditionnellement, on attribue à Moïse l'écriture du livre de la Genèse. Il a mis par écrit ce qui s'est transmis par oral au sujet de la création. D'accord ? Comme beaucoup d'autres livres, d'ailleurs. La tradition existait avant la Sainte Écriture. Il faut bien le retenir, ça. Parce que les protestants, vous savez, pour eux, il y a la sola scriptura, l'écriture seule, que la Bible, et ils mettent la tradition à la poubelle. Sauf que la tradition existait avant l'écriture. Parce que c'est grâce à la tradition qu'on a pu mettre ensuite par écrit toute cette révélation de Dieu. Voilà donc pour le livre de la Genèse, c'est important de savoir d'où il vient pour pouvoir adhérer à ce récit qui commence ainsi, hein, au commencement, in principio. Et saint Jean commence aussi son prologue avec le même mot d'ailleurs. Au commencement, Dieu, donc la divinité, un Dieu, créa, le verbe créer, le ciel et la terre. Chapitre 1, verset 1, vous ne pouvez pas faire plus début, quoi. Là, on est au tout début de la Bible. Et puis ensuite, l'auteur décrit en six jours l'œuvre de la création, avec, attention, des formules plutôt avec beaucoup d'images. Parce que rappelez-vous qu'il écrivait pour un peuple. Il écrivait dans un contexte particulier, avec des images qui manifestent des réalités. Mais par exemple, les six jours montrent simplement que la création s'est faite par succession. Pas d'un coup, mais avec une succession. Pas en six jours, 24 heures, évidemment, mais, vous voyez, petit à petit, sur des milliards d'années, peut-être, on ne sait pas, même la science ne sait pas, elle se rapproche un petit peu de ces vérités, mais ça reste quand même très, très flou, parce que c'est lointain. Mais le livre de la Genèse raconte, non pas scientifiquement, mais avec des images, parce que la Bible, je vous rappelle, est un livre avant tout théologique, et non pas scientifique. Quand vous voulez faire de la cuisine, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas lire un manuel de bricolage. Vous voyez, quand on veut faire de la théologie, on va voir la Bible. Quand on veut faire de la science, on va voir un livre de biologie. Il faut vraiment choisir son livre. Bien là, c'est un peu pareil. Attention à cela. Alors, ce texte, nous pouvons retenir de ce texte cinq vérités. La première vérité, c'est que au commencement, à un temps donné, eh bien, Dieu va créer ce qui existe en dehors de lui. Je me répète, mais c'est important. Ce livre-là a beaucoup de choses à nous apporter au niveau de la foi, et puis même aussi un petit peu de la science. Un petit peu, ça se complète. Il y a eu un début du temps, hein, la première seconde qui est tombée. Deuxième vérité que nous donne ce texte, c'est que Dieu a créé tout l'univers, c'est-à-dire donc qu'il est le souverain maître de toute chose, puisque tout vient de lui, tout lui appartient, et voilà pourquoi nous devons l'adorer. C'est un acte de justice. Et l'adoration, je vous l'ai déjà dit, je crois, le mois dernier, le fait d'adorer est lié à notre nature humaine. Même quelqu'un qui est païen, pensez à toutes les religions un peu anciennes, tout homme, par nature, adore celui qui le dépasse. Adore ce créateur, même si on le connaît de manière un peu vague, c'est un acte naturel d'offrir des sacrifices pour reconnaître notre dépendance envers ce créateur dont nous dépendons. Parce que nous, s'il est créateur, tout dépend de lui, et donc je dois manifester mon hommage, Voilà. Ce n'est pas lié à la religion. Enfin, c'est une vertu de religion naturelle, si vous voulez. Mais plus tard, Jésus va nous apprendre comment rendre gloire à Dieu d'une manière parfaite par son sacrifice. Hein, la messe. Aujourd'hui, on peut réaliser cette adoration de Dieu par la messe. Et uniquement par la messe, unique sacrifice parfait. Tous les sacrifices passés et futurs en dehors de la messe ne sont pas agréables à Dieu, ne sont pas agréables au Créateur, parce que tout passe par Jésus. C'est un autre sujet, mais qui rejoint, vous voyez, le fait que Dieu est souverain maître de toutes choses, et donc nous devons prier humblement devant Dieu et nous reconnaître créature. Et c'est ce que l'homme moderne refuse le plus aujourd'hui, d'être créature, parce que ça nécessite d'être dépendant de quelqu'un. Et donc, ça enlève, entre guillemets, la liberté, si on comprend mal la liberté. Donc, deuxième vérité, c'est que Dieu est souverain maître de toutes choses. Troisième vérité, Dieu a mis de l'ordre dans l'univers créé par lui, c'est-à-dire qu'il l'a orné de lois. Il a fait les choses, il n'a pas fait une sorte de bouillie cosmique, si vous voulez. Il l'a vraiment installé avec des lois qui ne bougent pas. Prenez la loi de la gravité, ou prenez la loi du feu qui brûle, ou de l'eau qui bouille, ou toutes sortes de choses. Tout ça, ce sont des lois qui ne bougent pas. On appelle ça la loi naturelle. Ceux qui ne croient pas en la loi naturelle, bah, allumez votre briquet, et puis vous lui montrez que ça brûle, et ça fait partie de ces lois instituées par la nature, du coup par le Créateur. Hein, c'est tout bête, mais il faut revenir à ces choses un peu de bon sens. Dieu donc a installé cet ordre, et surtout, il va voir, Dieu vit que cela était bon, parce que tout ce que fait Dieu est parfait et dans l'ordre, justement. On voit que chaque chose ont été créées les unes après les autres, d'où les six jours de tout à l'heure. Hein. Chaque chose a sa place, c'est très intéressant aussi de voir que quand on contemple un petit peu notre création, chaque chose a son rôle, a sa place, même si on ne comprend pas tout. Et cet ordre parfait manifeste donc une intelligence supérieure qui peut être une voie, vous voyez, pour prouver l'existence de Dieu. Je ne me répète pas. Quatrième vérité que nous donne ce texte de la Genèse, avançons un petit peu, nous arrivons au sixième jour, nous arrivons au sommet de la création. Nous allons arriver à ce pourquoi Dieu a créé ce qu'on appelle la planète Terre, où on peut vivre, puisque le sixième jour, il va y installer son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Il a commencé par le brouillon, il a fini par le chef-d'œuvre, on dit. Je ne sais pas qui dit ça, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, l'homme en premier et la femme ensuite, vous le savez. Attention, il y a deux récits de la création. Chapitre 1 et ensuite chapitre 2. Dans le chapitre 1, Dieu crée l'homme avec un grand H pour manifester l'unité de nature de l'homme et de la femme, l'égalité de nature. Et plus tard, homme et femme, il les créa à son image et à sa ressemblance pour manifester la distinction, la complémentarité aussi, première chose. Et deuxième grande vérité, faisons l'homme à notre image parce que, vous le savez, nous sommes constitués d'un corps bon visible et d'une âme spirituelle comme Dieu, qui est spirituel. C'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu, c'est là d'où vient notre dignité aussi. Hein. C'est pas en fonction de notre agir que nous sommes dignes, de ce que nous savons faire. C'est en raison de notre être. Ce n'est pas du paraître ou du faire, c'est notre être. Nous avons une âme, nous sommes à l'image de Dieu. Petite parenthèse, hein, on dit que le verbe faire à la première personne du pluriel, faisons l'homme. Tout à l'heure, le bon Dieu utilisait les cinq premiers jours, que la lumière soit et la lumière fut, etc. Là, c'est faisons. Les pères de l'Église pensent que c'est une manifestation de la Trinité. Hein, voilà, on peut le penser. Hein, toute la Trinité est à l'œuvre, donc, et en particulier pour créer l'homme et la femme. Dieu n'a créé qu'un seul couple humain, c'est aussi, attention, une vérité de foi. Un seul couple humain. Et beaucoup de catholiques l'oublient ça, que c'est une vérité de foi. On ne peut pas penser qu'Adam est un nom générique dans lequel on met une sorte de, voilà, si vous voulez, une centaine d'hommes, et que Ève, pareil, une centaine de femmes. Il faut vraiment tenir qu'il y a un seul homme, une seule femme, parce que d'un seul homme et d'une seule femme peut découler ensuite une famille, puis un peuple, puis ensuite une nature humaine, si vous voulez. Enfin, vous voyez, toute notre existence. Et aussi, il faut tenir cette vérité pour pouvoir tenir le péché originel, évidemment. Parce qu'imaginez, s'il y avait plusieurs couples, il y aurait un couple qui aurait péché, d'autres non. Bon, ça veut dire que sur Terre, il y aurait des gens qui seraient encore dans l'état de nature, dans la grâce. Bon, peut-être que vous en faites partie, mais ça se saurait, ça se verrait. Et dans tous les cas, tenons vraiment qu'un couple humain, et il paraît, ça c'est à vérifier, hein, que les scientifiques, par l'étude donc de l'ADN, eh bien, ils arrivent à montrer que le mélange chromosomique, si on remonte ou on remonte dans le temps, eh bien, découle d'une même souche, si vous voulez. Voilà. Donc, d'un couple monogène. Bon, après, à vérifier. Mais j'avais lu ça il y a quelques temps. Dernière vérité que nous donne le livre de la Genèse, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais cinq ce soir. Dieu a demandé que le septième jour, justement, soit un jour de repos. Attention, c'est pas pour ça qu'on va à la messe le dimanche. Pourquoi on va à la messe le dimanche ? Ah, parce que Dieu s'est reposé le septième jour. On va à la messe le dimanche parce que le dimanche, c'était le jour de la résurrection de Jésus. Hein, c'est le dimanche, pour les Juifs, c'était le premier jour de la semaine. Et c'est le jour de la victoire de notre Seigneur. C'est pour ça. Et ça rejoint aussi le fameux septième jour, institué par le bon Dieu, qui est de l'ordre naturel, et on le sait bien, qui est nécessaire. Hein, pour que les choses puissent vivre, il faut qu'elles puissent se reposer. Et on voit dans notre monde activiste, un monde épuisé, parce que on travaille même le dimanche. C'est une autre question. Voilà donc, vous voyez, les preuves de la création dans la Sainte Écriture. Voyons maintenant rapidement dans ce que nous dit la tradition, hein, de l'enseignement de l'Église depuis donc 2000 ans. Rappelez-vous, hein, la révélation, nous l'avons dans la Sainte Écriture et dans la tradition. Alors, la tradition nous dit que la création du monde par Dieu est une vérité de foi. Nous le savons grâce aux premiers symboles de foi, les premiers credos. Dès les premiers siècles, ça a été affirmé, sans question, voyez. Ensuite, redéfini par le concile du Latran au XIIIe siècle. Et puis, je vous cite le concile du Vatican, premier concile du Vatican en 1870, vous savez, qui a été achevé trop rapidement à cause de la guerre. Voici ce que dit le concile. Si quelqu'un ne confesse pas que le monde et toutes les réalités qu'il contient, spirituelles et matérielles, si quelqu'un ne confesse pas que tout ça ont été dans la totalité de leur substance produit du néant par Dieu, ou s'il dit que Dieu n'a pas créé par une volonté libre de toute nécessité, ou s'il nie que le monde ait été créé pour la gloire de Dieu, qu'il soit anathème. C'est un style, mais à l'époque, on donnait à la fin des professions de foi, on mettait des règles comme ça, si quelqu'un ne dit pas que, qu'il soit anathème, c'est-à-dire bien, qu'il soit mis de côté, parce que, eh bien, il n'est pas dans la foi. Au moins, c'était clair. Et si on voulait savoir si on était catholique, il n'y a plus qu'à lire, et voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc, vous voyez, premier concile du Vatican, qui rappelle bien ce que l'Église a toujours cru sur la création, en ce qui concerne le fait que les choses viennent de Dieu, soient sorties du néant, de par la volonté de Dieu, volonté libre. Alors avançons et voyons quelques objections et controverses au sujet justement de ce mystère. Ça reste quand même un mystère de la création. De nos jours, beaucoup de gens prétendent et croient que le récit de la création, justement, qu'on peut lire dans la Genèse, eh bien, est en opposition avec la science. On l'a dit un peu. Avec les découvertes de la science moderne, nous retrouvons le débat quotidien, disons, entre notre foi et la raison, entre la foi et la science, mais surtout, n'ayons pas peur de ce débat qui traîne depuis toujours. Hein, et au XIXe siècle, au XXe siècle, on est tombé dans deux hérésies, deux erreurs. Le fidéisme, de dire que la foi n'a pas besoin de preuves pour connaître Dieu, etc. Donc on est tombé dans un versant qui n'est pas bon. Ouais, là, un peu la foi du charbonnier, ça a été condamné. Et on est tombé aussi dans le rationalisme, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la foi, on n'est que dans le domaine de la raison. Mais il faut lier les deux, d'accord ? Foi et raison. C'est ce que va faire entre autres Jean-Paul II dans Fides et Ratio, une encyclique, et bien sûr le discours de Benoît XVI à Ratisbonne. Je vous invite vraiment à le relire, il faut prendre son temps, mais il rappelle vraiment ces notions que vous voyez, la foi s'enracine dans notre intelligence. Et donc, que la foi est aidée par la science, est aidée. En tout cas, elles se complètent l'une l'autre. Il n'y a aucune opposition, et gardons bien cela, il ne faut pas avoir peur des avancées scientifiques, au contraire. Rien qu'un exemple, le linceul de Turin, les découvertes archéologiques en Terre Sainte, encore tous les mois on découvre des choses qui montrent que l'Évangile, dans son texte, parler de tel monument, par exemple, et puis on se dit, mais n'importe quoi, on n'a jamais découvert ça, et sauf qu'en 2020, on découvre que l'Évangile disait vrai. Et la science vient soutenir ces vérités de foi, et c'est très consolant. Et c'est normal, puisque la foi et la science viennent du même auteur, qui est Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire. Alors, dans notre sujet, il faut simplement retenir que l'écrivain sacré, dont je vous parlais tout à l'heure, Moïse, n'a pas voulu donner un texte scientifique, mais vraiment un texte de type religieux. Et c'est toute la question des styles, des genres littéraires. Et je vous rappelle que quand nous lisons la Bible, il faut lire le texte avec l'esprit de l'auteur. C'est comme tout livre, hein, que ce soit un roman policier, ou un journal, ou un article de journaliste, il faut se mettre dans l'esprit de l'auteur. Eh bien, quel est l'auteur de la Bible ? C'est le Saint-Esprit. Il faut se mettre dans l'esprit du Saint-Esprit pour bien lire la Bible, pour ne pas s'égarer. Et quand vous prenez la Bible et le Saint-Esprit, vous secouez un peu, eh bien, ça donne le catéchisme. Voilà pourquoi il faut plus, disons, il faut lire la Sainte Écriture, bien évidemment. Mais attention à ne pas lire que la Sainte Écriture, parce qu'on n'est pas assez, disons, on n'a pas assez de prise de hauteur et assez de connaissance pour pouvoir bien extirper tous les dogmes que nous enseigne la foi. Il faut lire le catéchisme, c'est fondamental. Hein. Et c'est ce qui a un peu totalement rejeté donc le protestantisme. Petite parenthèse. L'objection la plus répandue, évidemment, vous la connaissez, c'est le transformisme. Le transformisme, en un autre mot, la théorie de l'évolution de Darwin au XIXe siècle sur l'évolution des espèces, on appelle ça aujourd'hui l'évolutionnisme, mais à la base c'était le transformisme, des espèces qui se transforment en d'autres espèces via une macro-évolution. Vous voyez, on passe, je ne vais pas donner d'exemple parce que ce serait ridicule, mais vous voyez ce que je veux dire, des évolutions tellement énormes avec un chaînon qui manque. Et puis on l'explique pas trop, mais voilà, c'est comme ça que ensuite est arrivé les multitudes d'espèces. Entre parenthèses, sachez que Darwin a renié toute sa théorie sur son lit de mort en disant que pour faire l'œil humain, la complexité de l'œil humain, eh bien les 3,5 milliards d'années qui nous séparent de la première cellule vivante n'auraient jamais suffi. Les mutations, si vous voulez, les micro-évolutions, n'auraient jamais suffi pour arriver à la complexité de l'œil humain. En gros, il a dit ça sur son lit de mort. Pour dire en fait l'évolution, cette théorie, ça reste une théorie, n'est pas valable. Voilà. Quand on voit la complexité de l'œil ou même de l'oreille interne ou tout ce que vous voulez, et sans parler de notre intelligence, sans parler du fait que nous pouvons émettre des idées. Et ça, pour Darwin, c'était quand même, on passe de la matière à l'esprit. Il y a le chaînon manquant, le fameux chaînon manquant, pardon, qui nécessite évidemment un acte extérieur, qu'on appelle un acte de Dieu, qui insuffle une âme. Mais ça, pour les matérialistes et les scientistes de cette époque, c'était totalement impossible. Donc, vous voyez, ils étaient quand même face à un mur. Mais pourtant, cette théorie a fait beaucoup de bruit et s'est répandue encore dans nos livres de biologie. Il ne s'agit que d'une théorie, donc, évidemment, qu'on peut ne pas y adhérer. En revanche, nous pouvons adhérer à ce qu'on appelle la microévolution. Évidemment qu'il y a des évolutions depuis des milliards d'années, hein, que ce soit l'homme, que ce soit différents animaux, ça, il n'y a aucun problème, mais la macroévolution, pour le coup, s'explique mal scientifiquement Et on ne trouve rien de tout ça dans la Sainte Écriture, si vous voulez. Enfin, c'est pas, ça ne correspond pas très bien à la Sainte Écriture. Voilà. Alors, voyons maintenant les motifs de la création. Pourquoi Dieu, qui était infiniment heureux depuis toute éternité, pourquoi a-t-il créé? C'est très intéressant parce que ça nous pousse à lui rendre encore plus gloire et encore plus aimer notre Créateur. Vous devinez pourquoi. Pourquoi les choses sont, voyez, alors qu'elles pourraient ne pas être? En soi, pourquoi aujourd'hui vous vivez alors que la petite sœur ou le petit frère que vous n'aurez jamais, eh bien, n'existe pas? Pourquoi vous et pas votre petit frère ou votre petite sœur qui n'existe pas? Nous sommes des êtres contingents. C'est-à-dire que nous sommes, mais nous aurions pu ne pas être. Comme toutes les choses, sauf Dieu. D'où ça vient cela? Dieu n'avait pas besoin du monde. Dieu n'avait pas besoin de la création pour reposer ses pieds, si vous voulez. Non. Aucune nécessité, parce que, rappelez-vous, il est l'être. Il est l'être subsistant par lui-même, et donc il se suffit amplement. Vu qu'il est tout, eh bien, il n'a besoin de rien. Et c'est pour cela qu'il était infiniment heureux, car comblé par lui-même. Ce n'est pas du tout de l'orgueil, attention. Hein. L'orgueil, c'est se croire plus que ce qu'on est. Mais vu que Dieu est tout, il ne peut pas être orgueilleux. Hein, c'est un cercle vicieux. Donc, depuis toute éternité, Dieu est infiniment heureux, et pourtant, eh bien, il a créé, nous le voyons, autour de nous. Et donc, le fait que Dieu aurait pu ne pas créer montre d'une part qu'il a fait ça librement, hein, et donc qu'il a fait ça par pure bonté. Librement parce qu'il a une intelligence et une volonté, donc il a décidé par un choix libre, et par pure bonté, parce que il veut, vous allez le voir, faire participer certaines créatures, faire participer ces créatures à son bonheur éternel. Les anges et les hommes. Il faut retenir donc qu'il a créé de rien et librement les créatures spirituelles et corporelles par pure bonté pour manifester sa perfection. Le premier but donc de la création, c'est la gloire de Dieu, la gloire extérieure de Dieu. Dieu a deux sortes de gloire. Sa gloire interne, qu'on ne peut pas augmenter. Vous voyez, quand on dit « Ah oui, je vais rendre gloire à Dieu » ou « Ma petite action, là, rend gloire à Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? On a l'habitude de l'entendre, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. Vu que Dieu est tout et qu'il ne change pas, ma petite action, qu'est-ce qu'elle change pour Dieu? Elle ne change pas sa gloire interne, sa gloire essentielle. Elle change ce qu'on appelle la gloire accidentelle, sa gloire externe à lui. Quand on fait quelque chose de bien, ou quand on va adorer le Saint-Sacrement, par exemple, on augmente la gloire accidentelle de Dieu. C'est une petite nuance, mais qui permet de bien comprendre, de bien garder le fait que Dieu ne change pas et qu'il se suffit à lui-même, et en même temps que nous, pauvres petites créatures spirituelles, pourtant on peut justement augmenter cette gloire accidentelle. Et donc, Dieu a créé pour manifester sa gloire. C'est ce que dit le psaume 19 que vous connaissez sans doute. Les cieux, c'est David, roi David qui dit ça, les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Hein, quand on contemple, eh bien, nous voyons la toute-puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on parlait des galaxies tout à l'heure, qu'on ne connaîtra jamais. Pourquoi ont-elles été créées? Pourquoi ont-elles été sorties du néant? Pour montrer la gloire toute-puissante de Dieu et aussi sa gratuité. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à toutes les milliards et les milliards et les milliards de feuilles mortes qui tombent chaque année, qui ne reviendront jamais. Et bien, c'est la gratuité de Dieu. Les milliards de graines, prenez un pissenlit, vous soufflez, les milliards de graines, il y en a une sur 30 000, il y en a une qui servira, et les autres. C'est la gratuité de Dieu. Hein, ça toute puissance. Et pour manifester sa gloire, ben c'est merveilleux. Oui. La contemplation nous permet eh bien, cette action de grâce, se rendre gloire à Dieu par cette contemplation. Entre parenthèses, je vous rappelle que nous, hommes, donc qui avons une connaissance, cette possibilité de connaître, eh bien, c'est notre rôle à nous d'être le chantre de la création, c'est-à-dire de rendre gloire à Dieu. Parce que prenez le soleil. Le soleil, Il est magnifique, mais il ne sait pas qu'il est magnifique. Il ne le sait pas. Et donc, il ne peut pas rendre gloire à Dieu. À qui est-ce qui doit le faire? Eh bien, c'est l'homme. Nous sommes les chantres de la création. C'est saint François d'Assise, hein, ce poème à la création. C'est vraiment notre rôle, et il ne faut pas l'oublier. Il faut savoir rendre gloire à Dieu pour toutes ces choses qui nous entourent, parce que, de par leur nature matérielle, elles ne peuvent pas rendre gloire à Dieu directement. Alors, pourquoi suis-je sur la terre? Premier point, pour la gloire de Dieu. C'est tout. Pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés en premier pour cela. Ainsi que l'arbre qui est ici, que la montagne qui est là-bas, que le soleil, que la galaxie qu'on ne connaîtra jamais, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Bon. Il s'est fait plaisir, le bon Dieu s'est fait plaisir, vraiment. Voilà. Le deuxième but de la création, je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que le bon Dieu veut faire participer certaines créatures à son bonheur éternel, donc les anges et les hommes que nous sommes. Et comprenez que c'est en rendant gloire à Dieu, eh bien, que nous serons heureux. Tout est lié. Les deux buts, en fait, sont liés. La gloire de Dieu et notre bonheur, Dieu les a liés pour que nous puissions trouver notre bonheur en lui. Et voilà. Bon, je ne m'étends pas. Pour finir, un petit mot sur la création des anges, c'est-à-dire donc des êtres invisibles et même des premières créatures que Dieu a créées. Si on invente le temps, vous voyez, Dieu a créé en tout premier, évidemment, les anges et ensuite les choses visibles. Les anges ont été créés, il faut un petit peu parler d'eux parce qu'on les oublie trop, notamment notre ange gardien qui est bien présent ici et je les salue, mais c'est important de ne pas les oublier, de les prier, parce qu'ils ont un rôle très important dans notre vie de tous les jours et aussi dans la création. Définition, les anges sont de purs esprits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps, créés par Dieu, pourquoi? Pour servir Dieu et chanter ses louanges. C'est tout. Servir Dieu et chanter ses louanges. Ce sont de simples esprits, mais pourtant, attention, ça ne fait pas eux des êtres simples. Il n'y a que Dieu qui est simple. Pourquoi? Parce que les anges sont composés d'une essence et d'existence. J'approfondis pas, mais ils sont moins compliqués que les hommes, mais il y a quelque chose. Vous voyez, on peut distinguer des choses dans l'ange. C'est pour ça qu'il n'est pas égal à Dieu, et notamment aussi parce qu'il est une créature de Dieu. Sachez aussi que chaque ange forme une nature en lui-même. Nous, on est une nature humaine, et bien chaque ange forme une nature particulière. Voilà. Non pas simplement une personne particulière, mais une nature particulière. C'est intéressant. Un professeur dominicain, quand il voulait donner un exemple concret, il parlait des anges. Voilà. Parce que pour lui, les anges, c'était concret. On peut le penser, en tout cas. L'ange n'est absolument pas lié à un corps. Quand on le représente avec les ailes, c'est pour représenter sa rapidité, son instantanéité aussi, de leur agir, de l'obéissance envers Dieu. Et quand il apparaît aux hommes en prenant un corps, c'est tout à fait possible, il n'est pas lié à ce dernier. Et c'est pour ça qu'il est supérieur à l'homme, parce qu'il est esprit pur. Il a donc une intelligence beaucoup plus parfaite que l'homme, et il a une connaissance intuitive des choses. Plus il est proche de Dieu, plus il connaît les choses. Vous savez qu'il y a plusieurs hiérarchies angéliques, il y a des petits, des moyens, des grands, des très grands, et les très grands transmettent à ceux qui sont en dessous les connaissances qu'ils ont de Dieu. Il y a toute une transmission de la connaissance. Tout ça, on le sait grâce à la Sainte Écriture, aussi un peu de philosophie, de l'essence même des anges, et puis de la tradition. Donc ils ont une connaissance intuitive, et le fait de savoir qu'ils ont une intelligence plus parfaite que la nôtre, c'est intéressant surtout quand on parle des démons. Parce que le démon, on va y revenir, est un ange déchu, pourtant il garde une forte intelligence, pour ça qu'il est malin. Les anges connaissent aussi l'avenir, mais attention, l'avenir qui est lié aux causes nécessaires. Par exemple, si je prends un stylo et que je le lâche, l'ange sait que le stylo va tomber, parce que c'est lié à des choses nécessaires. En revanche, il ne connaît pas les futurs libres. Les futurs libres, c'est ce qui est lié à notre liberté. Tout à l'heure, je vais me lever ou pas me lever. Je suis libre. Ben, l'ange ne sait pas si je vais me lever ou pas me lever. Hein. Contrairement à Dieu, qui lui, qui est dans l'éternité, sait tout. Bon, donc ils ont une connaissance plus parfaite que la nôtre, mais quand même limitée. Attention à cela. Concernant leur création, c'est important aussi de se souvenir qu'ils ont été créés, il y a eu un premier instant, création de tous les anges. Il n'y aura jamais d'autres créations d'anges. Des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Premier instant, ces anges ont été créés libres, parce que Dieu les aime et veut être aimé librement. Et donc, comme tout être libre, il fallait qu'ils posent un choix. D'où la révolte des anges, avec à leur tête Lucifer, qui était le plus beau des anges, le porte-lumière, hein. Lucifer ça veut dire le porteur de lumière, qui a voulu être donc, selon Dieu aux enfants, plus fort que Dieu, supérieur à Dieu. C'est surtout un péché évidemment d'orgueil, c'était le seul péché qu'il pouvait faire parce que c'était des esprits. Et donc le pire péché pour un esprit c'est le péché d'orgueil, c'est-à-dire de vivre indépendamment de Dieu. Je ne veux pas être dépendant d'un créateur. C'est pour ça qu'il s'est révolté, pour se faire son propre créateur. Je viens de moi. Sauf que le pauvre, entre guillemets, donc il a quitté Dieu à la suite de milliards d'autres anges, enfin, les autres l'ont suivi plutôt, ça a donné l'enfer. Sauf qu'aujourd'hui, en enfer, les démons dépendent toujours de Dieu. Sinon, ils seraient anéantis. Vous voyez, ils existent. Dieu les maintient dans l'être. Eh bien, cette dépendance qu'a Lucifer de Dieu crée en lui un déchirement terrible. Parce qu'en même temps, il a, comment dire, il a perdu ce pour quoi il était fait, la vision de Dieu. Parce que je vous rappelle que quand les anges ont été créés, ils ne voyaient pas encore Dieu, sinon ils ne l'auraient jamais quitté. Ils étaient dans un monde angélique, le monde naturel des anges. Lucifer a refusé de servir Dieu, d'être dépendant de Dieu, et donc il s'est coupé de ce pour quoi il était fait, la vision béatifique. D'où ce malheur. On appelle ça la peine du dent, hein, D-A-M, que la peine des damnés d'ailleurs, qui donc ne voient pas Dieu. Contrairement aux autres bons anges, les pères de l'Église pensent que 2/3 sont restés fidèles. Bon, ouais, on ne sait pas hein, le nombre, mais Dieu est quand même vainqueur, donc on pense que la majorité sont restés fidèles au bon Dieu, et aujourd'hui ces bons anges voient Dieu, le servent, chantent ses louanges, et lui rendent des services, entre autres, de nous protéger, de nous aider à aller au ciel. Preuve de leur existence, je ne m'étends pas, on voit ça bien sûr dans la Sainte Écriture, l'ange qui garde la porte du paradis, l'ange qui apparaît à Abraham, l'ange Raphaël avec Tobie, évidemment l'archange Gabriel le jour de l'Annonciation, les anges sont quasiment, pas à chaque page, mais quasiment. Et essayons de les découvrir un petit peu. Dans la tradition, c'est marrant, le magistère s'est très peu prononcé, parce que l'existence des anges n'a jamais été remis en question. C'est normal. Les anges existent. Donc il n'y a jamais eu vraiment de dogme. Vous voyez, dans le credo, on ne parle pas des anges, si je ne me trompe pas. Bon, parce que c'est une évidence, si vous voulez. On en parle justement quand on dit créateur des choses visibles et invisibles, vous voyez, en ce sens. Ils sont évidemment très présents dans la liturgie. Nous n'avons qu'à relire les préfaces. Chaque fin de préface, on énumère quasiment les 9 chœurs angéliques avant de chanter le Sanctus. On unit nos voix à celles des anges. Et puis, depuis notre baptême, l'Église nous confie à un ange gardien. Nombre et hiérarchie des anges. Les anges sont incalculables. Hein. L'Apocalypse parle de nombre de myriades et des milliers de milliers. Il y a 9 groupes d'anges composés. Donc, il y a 3 hiérarchies, si vous voulez. Donc, première hiérarchie, ce sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Après, il y a les dominations, les vertus et les puissances. Et après, il y a les principautés, les archanges et les anges. Et chacun a un rôle particulier. Les premiers contemplent Dieu. La deuxième hiérarchie s'occupe de l'ordre du monde. Et la troisième hiérarchie exécute les ordres de Dieu. Voilà, tout ça, les théologiens se sont pas amusés, non, c'est pas le mot. Mais ont un peu développé l'angéologie. C'est une science. Au séminaire, on avait des cours sur les anges. Là, c'était sympathique. C'était plus sympa que la philo. Mais parce que les anges, c'est concret. Les démons, donc, n'oublions pas qu'ils ont perdu, évidemment, une certaine capacité de connaissance, puisqu'il ne voit pas Dieu, mais il garde cette supériorité, puisqu'il reste esprit pur. Ils sont jaloux de l'homme parce qu'ils savent que l'homme peut être sauvé, contrairement à eux. Je voulais vous dire que quand un ange pose un choix, vu qu'il est esprit, ce choix, il est posé pour toujours. Quand nous posons un choix, vu qu'on est dans un corps, notre choix, il peut être, vous voyez, remis en question. On peut changer d'avis. D'où notre conversion perpétuelle. Contrairement à l'ange qui ne peut pas se convertir, parce qu'il est pur esprit. Regardez notre âme, quand elle aura quitté notre corps, elle sera pur esprit, elle ne pourra plus changer d'avis, comme les anges. Nous serons fixés dans notre dernier acte de volonté. Dieu ou pas Dieu. Vous voyez. C'est un autre sujet. Enfin, il me reste 3 minutes pour parler de nous, les hommes, parce que nous faisons quand même partie de la création. Nous sommes même, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sommet, le couronnement de la création. Qu'est-ce que l'homme ? Définition très très simple, mais qu'il faut savoir. L'homme est une créature, déjà, raisonnable, composée d'une âme et d'un corps. Donc créature, je ne m'étends pas. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, nous n'étions que du néant. Et nous avons été tirés du néant. Raisonnable, ça veut dire que nous avons une âme spirituelle. Il faut rajouter le mot spirituel, parce que l'arbre qui est dehors, il a une âme aussi. Une âme végétale, qui fait qu'il pousse. Le chien qui est dehors, il a une âme animale, qui fait qu'il a des sensations. Mais ce ne sont pas des âmes spirituelles. Il n'y a que nous qui avons une âme spirituelle, c'est-à-dire composée d'une intelligence et d'une volonté. Une intelligence pour posséder le vrai, pour connaître le vrai, et le vrai ultime parfait, c'est Dieu, et une volonté pour posséder le bien, et le bien parfait, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous ne serons comblés que par la vision de Dieu. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en vous, Seigneur, dit saint Augustin. Quand on comprend ce qu'est une âme, on comprend pourquoi. Eh bien, nous ne sommes jamais totalement assouvis ici-bas. Attention, cette âme spirituelle, elle n'est pas dépendante de la matière. C'est pour ça qu'elle peut exister sans notre corps. Mais attention, elle est dans un état imparfait. Au moment de notre mort, il y a séparation du corps et de l'âme. Notre âme ira au ciel, mais saint Thomas précise, l'âme, tant qu'elle n'a pas retrouvé son corps, eh bien, est dans un état imparfait, même si elle est au ciel. Mais imparfait, il faut le prendre avec des pincettes. Nous sommes tellement corps et âme que nous serons pleinement heureux que lors de la résurrection des corps, qui est un dogme de foi. Et notre corps à nous, pas celui du voisin, est un corps glorieux. Voilà pourquoi il faut respecter son corps et encore plus, évidemment, prendre soin de son âme, la grande oubliée dans notre monde. Dieu a créé l'homme et la femme dans un état, vous le savez, parfait. On dit un état aussi, un état de grâce. C'est important ça. À votre avis, est-ce que Dieu a créé l'homme dans un état de nature pure, c'est-à-dire juste dans la nature sans la grâce? Eh bien, l'état de nature pure n'a jamais existé. Quand Dieu a créé l'homme, eh bien, tout de suite, il a mis dans son âme la grâce. Tout de suite, l'homme a été enfant adoptif de Dieu. On est avant le péché originel. Voilà. Il y a eu ce fameux, oui, avant le péché originel, il faut que je vous dise quand même que Dieu nous a donné 3 sortes de dons. Les premiers sont des dons naturels, un corps, normalement constitué, une âme avec une intelligence et une volonté. Ça, c'est la première sorte de dons naturels. Il nous a donné des dons surnaturels, la grâce sanctifiante, qui fait qu'on pouvait atteindre Dieu après le passage dans le paradis terrestre. Les vertus théologales, foi, espérance, charité, qu'avaient Adam et Ève. Les vertus morales, prudence, justice, force, tempérance. Et les dons du Saint-Esprit. Adam et Ève avaient tout ça dans leur âme. Et cet état de sainteté devait être transmis à leurs descendants. Ah mais pourquoi on ne l'a pas mérité? Ben oui, mais c'était un cadeau de Dieu que cet état soit transmis avec la nature humaine, cet état de sainteté. Et en plus de ces dons naturels et dons surnaturels, il y avait une troisième sorte de dons, les dons prétères naturels. Vous connaissez peut-être, vous les connaissez sûrement. Il y en a 4. Le premier, c'est l'intégrité, en ce sens que nos passions étaient soumises à notre volonté à notre intelligence soumise à Dieu. Il y avait une harmonie parfaite. Et donc l'homme n'était jamais dans cette rébellion. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et ça, ça vient justement de cette disharmonie, comme on dit. Il n'y a plus d'harmonie, quoi, dans notre être, à cause du péché originel. Donc, premier don préternaturel, l'intégrité. Deuxième don, c'était la science. Hein, nous avions une science, nous avions une connaissance des choses infuse, pas une intelligence parfaite comme Dieu, mais on participait à l'intelligence de Dieu. Donc, grande connaissance religieuse et morale. Troisième don préternaturel, c'était l'impassibilité, c'est-à-dire santé parfaite et absence de souffrance. Et enfin, quatrième don préternaturel, c'était l'immortalité, mais conditionnelle. Si vous ne touchez pas à cet arbre, vous ne mourrez pas. Il n'y aura pas de séparation de l'âme et du corps. Vous irez au ciel sans passer par cette séparation. Voilà, malheureusement, je dois m'arrêter. Je finirai la prochaine fois, parce qu'il ne faut pas aller trop vite pour le péché originel. C'est trop important. Nous finirons la prochaine fois, nous commencerons avec le péché originel et on continuera. Voilà, merci pour votre attention et je vous laisse méditer ces grandes vérités de notre foi. Pas dire de bêtises.